On va commencer Perek Mem. Dans Perek Mem, c'est une suite directe du Perek Lametet. En vérité, à la base, dans les premières éditions du Tanya, Lametet et Mem étaient un seul chapitre. Enfin, après, ça a été séparé en deux parce que c'était très long. Parce qu'en vérité, on va toucher un sujet un peu différent. Mais en vérité, c'est toujours le même concept pour expliquer le concept de la Kavana. Qu'est-ce qu'on a expliqué? Ouais. Qu'est-ce qu'on a expliqué toujours une demande là, tout enregistre. Donc, qu'est-ce qu'on a expliqué la semaine dernière? On a expliqué 4 niveaux. D'accord? Avec l'exemple de l'ascenseur. Vous vous rappelez? On avait dit, il y a l'ascenseur quand il est au deuxième étage. C'est quoi le deuxième étage? Le deuxième étage, on a dit, bon, il y a le troisième étage, c'est les grands tzadikim. Ça, il a dit, El Lanou Essek Ben Istaroth. Ça, les grands tzadikim, on touche pas. On reste au deuxième étage. C'est quoi le deuxième étage? On a dit, c'est quand on fait...
Et en plus, il n'y a que 3 étages.
Que 3 étages. Le quatrième, oui. Ça veut dire il y a 1, 2, 3, il y a un quatrième, mais le quatrième, on n'en parle pas. Donc, c'est quoi le troisième étage? D'accord. En vérité, il faudrait dire, on devrait compter les étages à l'américaine. Ça veut dire que premier étage, c'est aussi rez-de-chaussée. En Amérique, premier étage, c'est rez-de-chaussée. Donc, premier, deuxième, troisième. D'accord. Comme vous voulez. Donc, le troisième étage, si on va l'appeler le troisième étage, deuxième étage européen, c'est quoi? Ça, c'est quand on fait Torah et Mitzvot, quand on fait Torah et Mitzvot avec une Kavana, c'est-à-dire une Kavana analysée, comme on expliquait la semaine dernière, c'est-à-dire une Kavana réelle, voilà, le mot qu'on a trouvé ce matin, c'est une Kavana réelle. Ça fait partie de moi, je sens la chose, c'est comme on avait donné l'exemple, quand je suis dans un terrain miné, c'est-à-dire c'est réel, je sens, il n'y a pas besoin qu'on me l'explique, j'ai pas besoin de me le rappeler, ça fait partie de moi. Ça, c'est troisième étage. Deuxième étage, c'est quoi? Deuxième étage, on a dit c'est quoi? Ça, c'est instinctif. Quand ça, c'est instinctif. Non, je le fais parce que je sens, etc. Mais c'est pas miné. C'est comme on avait donné l'exemple de Ahmadinejad Imarchemo. D'accord? Eshgacha Pratit, juste le soir même après qu'on a fait le cours de Tania, le soir même, j'ai entendu qu'ils ont réussi à envoyer un missile. Ils ont réussi à envoyer un missile sur orbite, comme ça ils disent en tout cas. Un missile, donc avec un satellite. Et les experts disaient que s'ils sont capables d'envoyer un missile
aussi haut,
ça veut dire qu'ils sont capables d'envoyer un missile aussi qui contient l'arme nucléaire, c'est-à-dire qui tient avec ses pressions. Enfin, je ne suis pas connaisseur, mais en tout cas, ça avait un rapport avec son expliqué.
Oh là là. Adam Khout, je...
C'est pas Sam Adam Khout, c'est Adam Khout.
Ah ouais.
Donc ça, c'était le premier étage. Premier étage, c'est quoi? C'est quand c'est une Kavana. Donc on a dit, c'est comme celui qui dit, il a peur qu'un jour, il y aura une guerre nucléaire. C'est loin. Il faut se le rappeler constamment. Ça, c'était deuxième étage. C'est quoi le premier étage? Premier et dernier étage. C'est quand on n'a pas du tout de Kavana. Mais là, on a expliqué, il y avait deux niveaux. Il y avait, quand je fais une mitzvah, Sam. C'est-à-dire, je fais ni pour moi, ni pour Dieu. Je fais par routine. Comme c'est la majorité des cas. Là, dans ce cas-là, la mitzvah, elle reste en bas, mais qu'est-ce qu'on a dit? Elle n'a pas d'aile. Mais dès que je refais la même mitzvah avec une aile, elle embarque avec. Très bien. Mais on a dit que deuxième type, c'est quoi?
C'est une grande nechama pour nous.
Ah, c'est big time. C'est énorme. Mais le deuxième type, c'est quoi? Le deuxième type qui est
la mitzvah.
C'est quand je fais la mitzvah par intérêt. Là, c'est le plus grave. Quand je fais la mitzvah par intérêt, on a dit, c'est comme si on a mis de la glu. C'est-à-dire que là, il faut faire teshuva. Tant qu'on ne fait pas teshuva, ça reste en bas.
Sans glu.
D'ailleurs, il y a une histoire qu'on raconte avec le Baal Shem Tov.
Toujours une petite part d'intérêt, non?
Une fois, le... Ah. C'est très dur ce que tu dis.
Il est vrai.
Faut pas t'entendre, le Yetzara. T'as raison, c'est vrai, tu as raison.
C'est lui qui me fait parler.
Comme j'ai dit la semaine dernière, plus on devient religieux, et plus on rentre dans le piège de rentrer dans cette catégorie-là. Il y a une histoire... Oui, de faire avec intérêt, ça veut dire que, bien sûr, on perd le... Très difficile. Une histoire qu'on raconte avec le Baal Shem Tov. Une fois, le Baal Shem Tov est venu dans une ville, c'était la ville de Brody.
Brody,
une ville qui s'appelle Brody. Ça s'appelle d'ailleurs toujours comme ça.
L'ancien nom de Broadway.
Et quand il arrive dans cette ville, il y a le Roche Akaal, aujourd'hui on aurait dit le président de la communauté, qui l'invite et qui lui dit, est-ce que vous voulez venir parler dans notre choule? Alors, le Baal Shem Tov, il répond, il dit, je vais pas pouvoir, ça va pas être possible, etc. Un peu blata le président, il insiste, il dit, mais pourquoi vous voulez pas venir dans notre communauté, etc. Pourquoi vous voulez pas venir parler, etc. Bon, le Baal Shem Tov, il évite. Après, à la fin, le Baal Shem Tov, il lui répond,
tu veux, je te dis pourquoi.
Il lui répond, il lui dit, je vais vous expliquer, C'est parce que, écoutez bien, c'est parce que la synagogue où vous demandez de parler est pleine de Torah et de mitzvot. Et le Baal Shem Tov avait dit, je m'arrêterai là.
Tu as compris.
Alors le président... Ah oui. Le président,
ça bloque.
Le président, il a rien compris. Il dit, ben, au contraire, c'est flatteur pour lui. Ça veut dire, il y a plein de Torah et de mitzvot. Et les élèves qui étaient dans le Baal Shem Tov, ils ont compris. Ils ont compris que le Baal Shem Tov, comme il ressentait ça, il ressentait que c'est un endroit dans lequel les gens qui étudiaient, ils étudiaient que pour eux. Et comme le Baal Shem Tov, ça le dérangeait, donc il préférait pas être à proximité de ça. Parce qu'il voulait pas se mettre à penser mal sur des juifs, donc il a dit, je préfère ne pas rentrer. Les élèves, ils ont compris. Voilà, ils voulaient pas le dire, le Baal Shem Tov. L'autre, il a insisté. Alors, il a dit. Ça, c'est une illustration de ce qu'on a dit.
Il faisait plein de mitzvahs à glu. Oui, mais on aurait dû penser que Baal Shem Tov, justement, il aurait été justement pour ça. Pour aider, de la coup de main. Oui.
Ah.
Ouais, ça c'est la nouvelle version de Baal Shem Tov, Alfie Hoffman.
Tu as raison. Peut-être que le Baal Shem Tov, il sentait qu'il allait pas pouvoir, je sais pas. En tout cas, c'est l'histoire. L'histoire, elle est comme ça. Ça s'est raconté dans Chiffré à Baal Shem Tov. Peut-être que les élèves, peut-être que c'était fait exprès, peut-être que les élèves, quand ils ont dit les anges du Sabbat Amidrash, quand ils ont entendu ça, ils sont dit quoi, le Baal Shem Tov, il a dit ça sur nous.
Ah, ah c'est possible.
T'as pas calculé ça.
Si, j'ai calculé, Bachar, il a certainement ses raisons. Hein.
Peut-être. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça explique ce qu'on a dit la semaine dernière, qu'une mitzvah qui est faite par intérêt, elle reste bloquée en bas. Elle reste bloquée en bas, elle monte pas. Et c'est ça ce qu'on va développer tout de suite au début du Pérek. Ah. Kolzman, Shelo Chazar, Velamat, Davarze, Lishma. Qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? On a dit que dans le premier étage, il y a deux niveaux. Il y a ou bien si je fais sans intérêt, dans ce cas-là, ça reste en bas, mais ça peut remonter dès que je refais la même mitzvah avec Kavana. Ou bien si je fais la mitzvah par intérêt, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Dans ce cas-là, elle reste bloquée en bas. Alors qu'est-ce qu'il dit? Ah, Kolzman, Shelo Chazar, Velamat, Davarze, Lishma. Tant qu'on n'a pas révisé et on n'a pas appris cette chose-là.
On ne savait pas qu'il avait fait Adam Prout. Hein. Si moi je suis avec Adam Prout, je serais venu encore plus vite. Hein. Ce que ça s'appelle étudier avec intérêt.
Que part, oui.
David.
Vous ne saviez pas qu'il avait...
Je ne savais pas qu'il y avait de l'Adam Prout. Mais la vérité, c'est une belle affaire. Hein.
Regarde, moi je savais qu'il y avait l'Adam Prout, mais
je ne suis pas
comme ça.
Hein pas bon, ça. Je ne suis pas connaisseur en Adam Prout, mais la forme que j'ai vue, ça avait l'air d'être
une... Ah non, j'ai pas.
La semaine prochaine, il y aura de la tarte pour Yacob.
Ah, ouais. On va faire ouais, cavode.
Je vais faire cavode à Adam Prout, à David.
Je faisais un chauffard de loin, moi.
Ah, magnifique, elle est.
Ah, bon.
Hé, hey, tiens, on lève l'écorce, hein.
Ah, pourquoi?
Ah. Le bichon de Baruchat, il a mangé la cire. Non, tu pousses, là. Mendy, arrête. Tu fréquentes les thunes, ici, hein.
Il a mangé la cire.
Il a mangé la cire, il a rien senti.
Il arrive à un niveau, comme Al Mourazaken, où il sent plus le goût, donc...
Trop fort.
Que ce soit cire, pas cire...
Le but, c'était faire cavode, il a mangé.
Pas de différence.
Tant qu'on n'a pas réétudié cette chose-là, l'Ishma, pour Akadosh Baruch Hu. Donc, El Limudo Olé. Ça reste collé, pas forcément. Ça dépend. Si c'était intéressé, ça reste collé. Si c'était désintéressé, ça reste en bas tout court. Il n'y a pas d'El, ça monte pas. El Limudo Olé, Afil ou Beyut Sirot, Ameirot, Beolam, Ayetzira, Veasia. Je vous avais prévenu que le chapitre 40 va être un peu plus compliqué que le chapitre 39. Après,
c'est toujours plus compliqué.
Après, ça sera plus soft. Donc, tant qu'il n'a pas réétudié cette chose-là, l'Ishma, à ce moment-là, son étude ne peut pas monter, même dans les 10 Sfirot. Je vais expliquer tout ce que ça veut dire. A Meirot, Beolam, Yetzira, Vassia, qui éclaire dans le monde de Yetzira et Assia. Ça veut dire les deux étages inférieurs. Qui a Sfirot, En Prinat et Lokut. C'est quoi le concept des Sfirot? Les Sfirot, c'est la divinité qui se trouve dans chaque monde. Que dans eux, Bahen, Mitlabesh, Mityached, Or, Ensov, Baruchu, Mamash. C'est quoi le concept des Sfirot? Les Sfirot, c'est la divinité qui se trouve dans chaque monde. Dans laquelle Dieu est uni. Ça veut dire, il explique. L'autre, il ouchimu, le Yachla, les Salka, ou les Mikam, Kodam Hashem. Il dit que sans... Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? On a dit brièvement la semaine dernière. Le Zohar, dans Tikkuné Zohar, Tikkun Yud, il dit que sans amour et sans crainte, lo yachla le salka ou le mekam kadam Hashem. La mitzvah ne peut pas monter devant un kadosh baruch hu que moshe katuv v'tikkuni. Explique l'admorazaken. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle ne peut pas monter en haut? Alors il dit ça veut dire qu'elle ne peut pas atteindre les sphirot. Quoi cette histoire, les sphirot? Alors, on va avancer tout de suite. L'admorazaken, il va dire où la mitzvah peut lui arriver. Et par ça, on va comprendre qu'est-ce qu'il veut dire en disant que ça ne peut pas atteindre les sphirot. Rak limudo ole, le chalot umadorim she'en chitsoniut olam. Quand une personne fait une mitzvah sans kavana, par exemple, il fait une mitzvah standard, par défaut, par routine. Qu'est-ce qui se passe en... Qu'est-ce qui devient de cette mitzvah-là? Tu m'as dit qu'elle ne monte pas, alors qu'est-ce qui devient avec? Son étude, elle montre les chalot umadorim, Shehem Chitsoniut Aolamot Shebahem Omdim Amalach. Dit comme ça. Dit que chaque mitzvah qu'on fait, chaque étude de Torah qu'on fait, ça crée des anges. Ça, je me rappelle quand j'étais petit, toujours on me disait, quand je lisais très vite les Tehillim, on me disait, quand tu lis un Tehillim, tu crées un malach. Et si tu lis vite les Tehillim et tu bâcles, le malach, il sera tordu. Comme ça, on me disait.
Ou ça sera un speedy gonzalez.
Et j'avais jamais trouvé la source d'où ça venait. Je crois que j'ai vu le Tanya ici. Le Tanya dit clairement, il dit, mais Forage, il dit clairement, il dit que quand on étudie, il amène le soir en vérité, il dit que quand on étudie, quand on fait une mitzvah, on crée un ange. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec cet ange? Ce qui est intéressant, c'est, le Rav Sandel ici donne un exemple, il dit, c'est un petit peu comme un Sefer Torah. Un Sefer Torah, il a une doucha extraordinaire. Mais ça ne change pas que le Sefer Torah, il peut rester bloqué dans l'armoire pendant des années sans que personne ne va l'utiliser. Ça ne change pas pour autant que ça reste un Sefer Torah, et qu'il reste Kadosh. Il explique le Rav Sandel ici, il a des très beaux méchalines dans ce prakim-là. Il dit que c'est la même chose quand on fait une mitzvah sans kavana. Quand on fait une mitzvah sans kavana, c'est comme si on a créé un Sefer Torah. Mais il n'y a pas d'elle, ça veut dire que l'outil est là. On a créé une fusée extraordinaire. Mais la fusée, elle ne peut pas décoller. Mais la fusée est là. C'est ce qu'il dit, c'est l'admor Zaken. L'imoud olé le chalot ou madorim shem chitzenu yuta olamot, shebaem omdim amalachim. Donc moi, je katab Rav Chaim Vitalzal. Comme a écrit Rabbi Chaim Vital. On l'appelle Rabbi Chaim Vital, on l'appelle Rav Chaim Vital, ça dépend des fois. Béchar anevoa perekbet. Donc Rabbi Chaim Vital, c'est le transcripteur principal des écrits du Arizal. Dit là-bas, dans Char à Nevoa, la porte de la prophétie, Perek Bet, chapitre 2. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Shemeato, Rachelo Bekavana, Nivraim, Malachim, Bola Maïtira. Quand on fait la Torah sans Kavana, on crée des anges, Beola Maïtira, dans le monde de la création. Donc, Atsilut, Bria, Yetira, Siet, ça veut dire, si on dit qu'il y a quatre étages, dans le deuxième étage, en commençant du bas. Ma mitzvot, Bli Kavana, Nivraim, Malachim, Beolam Aasiya. Quand on fait une mitzvah sans kavana, on va créer un ange Beolam Aasiya dans le monde d'en bas, dans le premier étage. D'ailleurs, là-bas, le Rabbi Chaim Vital, en parenthèse, il ramène ce qui est écrit dans Pirkei Avot. C'est écrit dans Pirkei Avot que Aose mitzvah achat konelo praklit echad. Que celui qui fait une mitzvah, il s'acquiert praklit echad, un défenseur. Il explique là-bas qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'acquiert un défenseur. Il dit, c'est ça ce que ça veut dire. Quand je fais une mitzvah, c'est quoi le défenseur? C'est le malard que j'ai créé par ma mitzvah. Et que le jour où je vais arriver en haut, qui c'est qui va me défendre? Qui c'est qui sera autour de moi? Ça va être les malachim que j'ai créés. Personne d'autre va venir se présenter pour moi. Ça va être les malachim que j'ai créés. C'est ça qu'il explique là-bas le Rabbi Chaim Vital au nom de Jarisa. Et alors il dit comme ça. Si le Rav Stenzal, il amène, je sais pas comment on dit ça en français, il y a, je sais qu'on dit, rien ne se perd, tout se transforme, c'est ça?
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
Mais comment on appelle cette loi? Il y a un nom, cette loi? La loi? La loi de Lavoisier, d'accord. En hébreu, ça s'appelle Chok Shimur, Achomer Vaenergia. Très bien. On a tout copié? Ils ont tout copié, d'accord. Donc lui, il dit comme ça, il amène un exemple, il dit qu'on sait très bien ce qu'on dit, qu'on dit dans le monde d'Egoïm, que Chomrim, Enam Kalim, Venam Notsrim, Mechadash, Emra Kovrim, Imatsav, Sheltsurazo, Lematsav, Sheltsura Acheret. C'est bien d'accord. J'ai bien compris, hein?
Ouais.
D'accord. J'ai bien compris. J'ai pas appris ça à l'école, mais... Rien ne se perd,
tout se transforme.
Tout se transforme. C'est exactement ce qu'on est en train de dire ici. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Que quand je fais une mitzvah, c'est impossible que je fais quelque chose, que j'étudie quelque chose, que je fais une mitzvah et qu'il n'y a rien qui se passe. Obligatoirement, il y a quelque chose qui s'est passé. Même si je ne me suis pas rendu compte. Chaque chose qu'on fait dans le monde, chaque chose que je fais, même si il dit le Rastan, même si je me gratte le nez, ça a transformé quelque chose dans le monde. Mais garé trop tôt.
Il a dit comme ça, les
comme ça, il dit. Mais garé trop tôt.
Qu'est-ce qu'on pense?
Même si je fais quelque chose de banal comme je suis en train de me gratter le nez, ça fait quelque chose dans le monde. Il n'y a rien qui ne fait rien dans le monde. Et ça, en vérité, dans la Kabbalah, on le retrouve de manière très très forte. On dit que chaque fois qu'on fait une mitzvah, et chaque fois qu'on fait une avéra, Dieu préserve de l'autre côté, tu crées un malheur. C'est une réalité. C'est une réalité, c'est un fait. C'est pas quelque chose que... C'est une réalité. Je fais une mitzvah, je crée un malheur. C'est pour ça qu'il a... Pour expliquer ça, le Rav Sandel, il a amené l'exemple de la loi de Lavoisier.
Lavoisier.
Très bien. C'est quoi, c'est le nom de celui qui a...
Ouais.
C'est son nom de famille?
Il devait le savoir, lui, comment il s'appelait.
Oui, bien sûr, lui...
Il a fait des études, Rav Sandel, non?
D'où c'est ça, Chok Shimur, Chomer, Vaenergia.
Non, il l'a fait, hein. C'est ce que je sais, il l'a fait. Hein.
Bien sûr. Donc, Oumé Amitvat Blokavana, Nivraim, Malachim, Beolam, Aasiya. C'est-à-dire, de chaque chose qu'on fait, l'étude de Torah que je fais, avec ou sans Kavana, peu importe, c'est une réalité, il y a un ange qui a été créé. Non, que je le sente ou que je le sente pas, c'est une réalité. Vechol amalachim embale chomer vetsura. Tu peux un peu suivre le fil ici parce que ça part un peu dans tous les sens. Vechol amalachim embale chomer vetsura. Tous les anges ont chomer vetsura. C'est-à-dire quoi chomer vetsura?
Matériel
et forme. Ils ont un matériel et une forme. Ça veut dire quoi? Ça encore une fois ici, m'explique le Rav Steinsaltz. Qu'est-ce que ça veut dire que même un ange a du matériel et une forme? Dit que nous, quand on entend matériel et forme, on a l'impression qu'on parle tout de suite d'un élément physique. On dit, ah, matériel et forme. C'est pas du tout. Il dit même sur une pensée, même quelqu'un qui est en train de réfléchir, quand une personne est en train de réfléchir, on retrouve aussi le matériel et la forme. Comment on retrouve le matériel et la forme? Il dit, c'est très simple. Chomer, d'accord, c'est le cœur qui est derrière la chose. Tsura, c'est la forme que ça prend. Si je suis en train de réfléchir à un sujet, je réfléchis à quelque chose, il y a le flash qui est derrière. Ce flash qui n'est pas limité par des mots et par des définitions. C'est un flash. Après, il y a la manière comment ce flash doit prendre une certaine forme, il doit être limité par des définitions, par une manière de réfléchir, dans des mots. Donc il explique comment on voit, comment même dans quelque chose de spirituel, on peut retrouver ce concept-là de Chomer Vetsura. On va prendre l'exemple d'un homme. Chez un homme, par exemple, c'est quoi Chomer et Tsura? Le corps, c'est Chomer, et l'âme, c'est Tsura. Et il explique, c'est la même, on peut retrouver ça même dans un élément spirituel. On a toujours le côté, on a toujours le fond, d'accord, le fond qui est derrière, c'est par exemple le fond d'une pensée, qui n'est pas limité par une forme, il n'est pas limité par des définitions. Et on a d'un autre côté la forme. C'est quoi la forme? C'est que même une pensée qui est entre guillemets spirituelle, elle doit prendre une certaine forme, doit entrer dans des définitions. Qu'est-ce qu'il dit ici à l'Admor HaZaken? Il dit que tous les anges sont baalei chomer vetsura. Tous les anges ont un fond et une forme. Tous les anges ont un fond et une forme. C'est quoi ce concept de fond et de forme? Concept de fond et de forme, c'est ce que nous on va créer quand on va faire la Torah et la Mitzvah.
Ils ont un corps, les anges?
Non, c'est pour ça que la personne l'explique. Il dit que ça ne veut pas dire que c'est matériel. Ça veut simplement dire, même sur quelque chose de spirituel, on peut expliquer ce concept de fond et de forme.
Ça existe aussi.
Dans l'abstrait aussi, ça existe. Car le fond, c'est, si tu veux, c'est le cœur qui est derrière, c'est le moteur. Et la forme, c'est la définition que ça prend. La définition que ça prend, que c'est carré, que tu veux, ça va pas dans tous les sens, c'est carré. Ça, c'est les anges aussi, ils ont la même chose. Baalé, Chomer, Vetsura. Aval. Torah, Shelo, Lishma, Mamash. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Déjà, je vais expliquer ce qu'il veut dire ici, l'Admor HaZaken. L'Admor HaZaken veut expliquer comme ça ici. Il veut expliquer que quand on étudie la Torah Stam, par exemple. Ça veut dire quoi Stam? C'est-à-dire, par défaut, on étudie la Torah sans Kavana. J'étudie la Torah sans Kavana, pour rien. Pas, ni pour moi, ni pas pour moi. J'étudie la Torah par défaut. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je vais créer un ange. Quel problème va avoir cet ange-là? Explique l'Admor HaZaken, puisque les anges qu'on crée, c'est des anges qui ont Chomer Vetsura. Ça veut dire quoi Chomer Vetsura? Ça veut dire qu'ils vont avoir un fond et une forme. Dans ce cas-là, l'ange, il sera déficient ici. Dans quoi il sera déficient? On va expliquer qu'il sera déficient dans les deux, dans le fond et dans la forme. Pourquoi dans le fond et dans la forme? Il sera déficient dans le fond, pourquoi? Parce que, en vérité, il sera plus déficient dans la forme que dans le fond. Vous me suivez? Reprenez l'exemple que j'ai donné tout à l'heure dans le Sefer Torah. On va écrire un Sefer Torah. Le Sefer Torah, il va rester des années dans l'Aron HaKodesh. D'accord? Dans le fond, le Sefer Torah, il est bon. Mais dans la forme, on s'en est pas servi. D'accord? Vous me suivez?
D'accord, dans le Sefer Torah, mais on va voir la suite.
Allez, c'est exactement la même chose pour un malach. On va créer un malach. Qu'est-ce qui se passe quand on va créer un malach? Le malach, dans le fond, bon, le malach a été créé. J'ai créé un malach par ma Torah, par Mizot, le malach a été créé. Bien sûr que le malach n'aura pas la même valeur que s'il avait la possibilité de monter, mais il a quand même été créé. Mais dans la forme que ça a pris, ce malach-là n'a pas d'aile. Il est bloqué. L'opachid, il ne peut pas monter.
Le malach est créé, la forme, il est là. Et dans le fond, il ne sert à rien.
Non, ce que je veux dire dans la fond, c'est que, ça veut dire que le cœur est là. Le concept est là. La preuve, c'est qu'il suffit de lui mettre des ailes et il va monter en haut. Tu me suis? Pourquoi l'Admor HaZaken dit ça? En vérité, tout ça, il est rentré dans tout ça pour expliquer le concept que quand on fait une mitzvah, quand on étudie la Torah, on crée un ange, on crée une réalité. C'est pas quelque chose, c'est pas du fictif, on crée une réalité. Puisqu'il explique qu'on crée une réalité, Admor HaZaken veut expliquer avec ça que puisque tu crées une réalité, alors quand on fait une mitzvah sans kavana, la réalité qu'on crée est défectueuse. Elle a un problème. Elle a un problème dans le fond ou dans la forme, dans ce que vous voulez, mais elle a un problème. Elle ne peut pas monter en haut. Quoi la malachie, on va aller remettre de soi. Alors, l'ange, ça, c'est une bonne question ce que tu poses. À quoi il sert cet ange? Est-ce qu'il fait quelque chose? C'est une très bonne question que tu poses. Ça, c'est pour ça que le... Ça, c'est quelque chose que le Rav Stenzel explique longuement ici. Il est très long sur ce terrain avec le Rav Stenzel. Il explique comme ça. Il dit que quand on monte en haut, il explique longuement le concept qu'on a dit tout à l'heure de Pirkei Avot, que celui qui fait une mitzvah, il s'acquiert un koneh praklit echad. Ça veut dire quoi? Il explique, il dit, c'est très simple. Il dit que quand on arrive en haut, à la limite, il n'y a même pratiquement pas besoin de faire un jugement. Pourquoi? À quel moment tu as besoin de faire un jugement? Tu as besoin de faire un jugement quand on ne sait pas, quand on a besoin d'analyser. Mais quand on arrive en haut, le jugement, c'est seulement pour montrer ce qui est déjà évident. Quand la personne arrive en haut, c'est tout de suite évident, il voit devant lui que quand il a fait une mitzvah, d'accord, quand il a fait une mitzvah, il a eu des anges qui sont attrapés autour de lui. Quand il a fait une avéra, il a eu des mauvais anges qui sont attrapés autour de lui. Qu'est-ce que dit la Gemara dans le traité Brachot? La Gemara dit dans le traité Brachot, elle dit que si l'œil voyait les anges qu'on crée, les mauvais anges qu'on crée, il malenitna reshut lirot. Comment il dit ici? Je sais pas s'il est ici. Ah oui.
Ça nous enlèverait le livre avec.
Il malenitna reshut les haïmirot, en kol bria yechola lamon upna mazikin. Voilà. La Gemara Brachot, d'Avav, elle dit que si l'œil pouvait voir les démons qu'on crée avec nos avérot, on aurait craqué, personne n'aurait pu tenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une réalité. Quand je fais une mitzvah, il y a un ange qui se crée et qui est autour de moi, qui m'entoure. Et que quand on sera en haut, ce sera évident. Je vais voir tout de suite que voilà ce que j'ai fait. Quand je vais faire une avéra, c'est la même chose. C'est la même chose, ça veut dire qu'il y a un ange, un mauvais ange qui s'attrape autour de moi. Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu a créé un concept de teshuvah. Et Kadosh Baruch Hu a créé un concept que quand on continue à faire Torah et mitzvot, alors il fait que ces anges-là, ces mauvais anges, ils finissent par partir. Parce que il mène l'etna reshut la inirot. Si on voyait les mauvais anges qu'on créait, on aurait craqué. Depuis le début, on n'aurait jamais pu faire teshuva. Comme ça, l'explique ici la même d'autres références en chassidut qui explique ce concept de la Gemara Brachot. Pourquoi on aurait craqué si on aurait vu ce qui se passe autour de nous? Tu me dis si j'avais vu les anges, les mauvais anges, j'aurais craqué. Il dit parce que quand on aurait vu l'impact que ça fait, c'est une réalité. La réalité qui se passe quand on fait une avéra, ça nous aurait fait tellement de peine et tellement ça aurait été énorme que jamais on n'aurait fait teshuva. C'est pour ça que Dieu a été gentil avec nous. Il a dit je vous montre pas ce que vous faites. Je vous montre pas ce que vous faites, c'est une chance que Kadosh Baruch Hu nous a donné. Ça veut dire que c'est une réalité qu'on a créée. Et comme il explique ici, quand on arrive en haut, qu'est-ce qui se passe? On t'ouvre les yeux, c'est tout ce qu'on fait. On t'ouvre les yeux, on te montre la situation, on dit voilà. D'ailleurs, le Baal Shem Tov, il dit que la manière comment une personne est jugée en haut, comment ça se passe, c'est on lui montre un film. Aujourd'hui, on aurait dit un film. On lui montre une situation. Une situation dans laquelle il y a quelqu'un qui fait une avéra, qui a fait une mitzvah, qui a fait ci, qui a fait ça. Maintenant, la personne qui est en haut ne sait pas que c'est elle. C'est pas à ce moment-là que c'est elle. D'accord? On lui montre la situation. On lui dit d'après toi, cette personne-là, hein, qu'est-ce qu'il faut faire? La personne d'elle-même, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, bah, c'est évident, elle a fait ça, donc ça c'était bon, ça c'était pas bon, il juge. Après, on ouvre le rideau, on lui dit, c'était toi la personne. Et là, à ce moment-là, ça veut dire que le jugement, c'est un jugement qui devient tellement évident à ce moment-là qu'on peut même plus faire appel, ça veut dire. C'est évident, on voit devant nous, on voit l'impact que ça. C'est exactement ce qu'il dit la Morazakan ici. Tu fais une mitzvah, tu crées un malach. Tu fais une avera, tu crées aussi un malach. Un malach qui va venir se retourner contre toi. Evra, Vazam, Vetsara, Mishlachat, Malacheraim. C'est dont on nous dit ça dans la Gada. D'accord? Ça veut dire qu'on crée des anges, on crée des mazikim, on crée des anges qui vont venir se retourner contre nous. Et les anges qui vont se retourner contre nous, c'est les anges qu'on a nous-mêmes créés. Personne d'autre. C'est pas des anges qui vont venir d'ailleurs, c'est les anges qu'on a nous-mêmes créés par nos actes. C'est avec ça, la Gemara Zaken veut expliquer le concept que si je fais une mitzvah sans kavana, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? J'ai créé un ange, mais l'ange n'est pas monté. Et alors? Ça, on va voir. Aval. Déjà, avant de dire...
Oui, tu fais une différence quand même entre l'étude et la mitzvah.
Oui,
hein.
Oui, c'est vrai.
Un c'est Yetzira, l'autre c'est Asir. Mm-hmm.
C'est exact.
Ouais.
Oui. Ça, c'est l'amener le Rabbi Chaim Vital.
Oui.
Mais il n'a pas voulu rentrer dans la différence entre Yetzira et Asir. Il a juste voulu amener une preuve au concept qu'il a dit, que la Torah et Mitzvot, ça crée une réalité. Vous savez, on a toujours tendance à croire hein, que quand on va arriver en haut, alors il y aura un bon Dieu, il y aura un juge, d'accord? Ils vont venir, il va dire, bon, on va analyser qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait, on va décider. Un jour, Dieu, il se lever du pied droit, il va dire, bon, allez, c'est bon, Ganeden. Un autre jour, il se lever du pied gauche, il dit, Gainom. Pas du tout. C'est pas du tout comme ça. C'est en haut, on va simplement nous ouvrir les yeux, on va dire, voilà la réalité que tu as créée quand tu étais en bas. Dieu a été gentil avec toi en bas, il t'a pas montré la réalité des avérotes que tu as fait, parce que sinon on t'aurait craqué, sinon comme vous avez dit tout à l'heure, on aurait eu un problème de libre arbitre. Mais en haut, la seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les yeux à la personne et dire, voilà la réalité que tu as créée. C'est là, on peut pas faire appel.
On va dire,
c'est à la fin d'un coup. Plutôt que de le faire par palier.
Ah, c'est pas ça, le pire derrière ça, c'est que c'est le qui montre le film. Ça c'est
Devant tout le monde, devant tout le monde.
On va savoir c'est de nous qui
s'agit. Là, on va dire non, lui, cachère.
Non, mais c'est pas ça, ça va être devant tout le monde, le pire.
Tout le monde va regarder.
Tout le monde, bien sûr. Tout le monde va regarder.
Oui.
C'est une bêtise qu'on fait, tout le monde va aller voir. On va se faire
chier.
Quand on fait des choses en couple.
Oui, 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 après il y a des montages.
Oui, oui, après il y a des montages.
C'est des fois on masterise, on met la couleur quand il n'y en avait pas. Vous avez Tchouba, il y a les ailes. Là, il n'y avait pas d'ailes, après on a mis des ailes.
Tous les, la plupart des témoignages qu'on a des gens qui ont passé un coma et qui étaient dans des situations dans lesquelles ils sentaient que leur âme est en train de sortir de ce monde. Tous ils racontent, d'accord, la majorité des témoignages, ils racontent comment. Ils sentent, on n'a même pas besoin de leur expliquer, dès qu'ils quittent ce monde, on n'a même pas besoin de leur expliquer, ils sentent tout de suite quel est l'impact des avérotes qu'ils ont fait. On n'a même pas besoin de t'expliquer. C'est-à-dire, tu as fait une avéra, alors voilà monsieur, conformément à l'article, etc., on va vous juger. Non, c'est une réalité. On voit qu'on a cassé. Le saut de la vérité, ouais. Bon, lui, il est parti un peu loin. Je sais pas si lui, il a vécu ça. Ah, il y a beaucoup de choses qu'il dit qui sont vraies.
Ça dure 1h50, il donne des détails.
Ouais, le type qui a dit qu'il est parti, il est revenu.
Ouais, il n'était pas religieux du tout, et là, c'est un rabbin. Enfin, un rabbin.
Il parle des tunnels, il parle...
On a le sentiment que ce sont des images stéréotypées.
Oui.
C'est pas le problème.
Ouais.
Mais non, si c'est comme bloque. Ça, on peut rien faire.
Il y a moyen de mettre dans le coma, il peut penser à ce qu'il a écouté avant. Donc il va avoir cette lumière. Ouais.
Non, parce qu'après... Parce qu'après le concept du tunnel, etc. C'est vrai que tous ils parlent d'un tunnel. Tous ceux qui sont partis,
ils...
lumière blanche.
Le tunnel, ça vient d'Egoïm, hein. C'est pas, enfin, je sais pas si.
Tunnel, lumière blanche.
Lumière blanche. Ouais. Il y en a qui voient de lumière noire. Bon, nous on rentre pas dedans. Nous, la seule chose qu'on veut te dire, c'est que quand tu vas arriver en haut, on va te montrer la réalité. On n'aura même pas besoin de l'expliquer. On voit devant nous, voilà la réalité de ce qu'on a fait. Donc, quand je fais une mitzvah sans kavana, eh ben la réalité que j'ai créée, c'est un malar qui est bloqué, qui est stock, qui est bloqué en bas. Tout ça, c'est quand j'ai fait une mitzvah, sam, par défaut. Par défaut, c'est ni pour Dieu, ni pour moi, j'ai fait une mitzvah par défaut. Donc là, elle n'est pas collée avec la glu en bas. Aval, comme on a dit à la fin du chapitre 1, Torah, Shelolishma, Mamash, quand j'étudie la Torah, Shelolishma, vraiment, ça veut dire vraiment, pas pour Akadosh Baruch Hu, Kegon, par exemple, Liot, Talmit Racham, ou Kegevna. Par exemple, si j'étudie la Torah, pour être un Talmit Racham, il n'y a pas de mitzvah de la Torah d'être un Talmit Racham. Il n'y a pas de mitzvah de la Torah d'être un Rosh Yeshiva. Moi, il dit un Shulchan Aruch, il dit qu'aidé chez Ekaré Rosh Yeshiva. Tu sais, j'ai écrit. Ici, quelqu'un, il donne un exemple de quelqu'un qui étudie chez le Lishma, pas pour Dieu. Il dit, par exemple, s'il étudie, pour qu'on l'appelle Rosh Yeshiva. De la même manière qu'il y a des gens qui font des études pour devenir professeur, moi, j'étudie pour devenir rabbin. C'est possible. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que plus on devient religieux.
Les gens qui font des études, en principe, c'est.
Pour devenir quelque chose.
Pour devenir quelque chose. C'est pas pour le plaisir des maths, hein. Ils font chercheurs en principe.
Alors, c'est pour ça que je dis que chez le Lishma, c'est très facile.
Pas des chercheurs, ils ont venus dans les chercheurs.
Non, mais d'accord, mais quelqu'un qui vraiment qui aime les maths, il devient chercheur.
Enfin, c'est vrai qu'il est objectif, un mec qui fait des études, il peut arriver à quelque chose.
Il peut arriver à quelque chose, il veut gagner sa part.
Il veut être docteur, il veut être ingénieur, il veut être.
Voilà. Quelqu'un qui veut devenir Rosh Yeshiva, par exemple.
Chef d'agence, je sais pas moi.
Si quelqu'un il étudie pour devenir Rosh Yeshiva, la majorité des cas, on va dire que c'est pas le cas.
Okay. Pourquoi pas, il veut devenir Rosh Yeshiva.
Voilà, peut-être, oui.
Là, pourquoi ça serait un tort?
Ah, ça s'appelle chez le Lishma.
Et pourquoi il veut devenir Rosh Yeshiva?
Ça s'appelle dans ce cas-là.
Il veut devenir Yeshiva, il veut transmettre.
Ah, attention,
pas pareil.
C'est les lamettes, ça.
Pas pareil.
Je sais pas, il faut m'expliquer ce qui est différent. Hein.
Attention.
Il faut le cavaler.
Il y a des jeunes marourim, on les voit bien, ils ont envie d'être. Ils veulent monter.
Oui.
Pour le cavode.
Ça s'appelle un Shelo Lishma.
Ils veulent devenir Rosh Yeshiva.
Qu'est-ce qu'a dit la
Gemara? Il aurait Yeshiva qui est beau, il dit pas comme lui.
Qu'est-ce qu'a dit la Gemara dans le traité Psachim? Elle dit que Léolam il mode Adam Shelo Lishma, Shemitor Shelo Lishma, Balishma. Quoi qu'il en soit, il faut toujours apprendre, même si c'est pas l'Ishma, parce que de pas l'Ishma, on finira toujours par arriver à l'Ishma, comme on a expliqué la semaine dernière, que ce soit dans ce Gilgoul ou dans un autre Gilgoul, on finira toujours par arriver à l'Ishma. Il faut toujours commencer par faire l'Ishma. Étudier, il faut toujours étudier. Pourquoi? Parce que quand j'étudie, je crée le malach. Le malach est là. Après, ce sera simplement une question de temps et de teshuvah pour que le malach remontera. Mais le malach est là, la réalité a été créée. C'est vrai qu'il faut quand même étudier l'Ishma. Mais, ça change pas. Si, même chez l'Ishma. Mais si j'étudie pour devenir un Rosh Yeshiva, je n'étudie pas pour Akadosh Baruch Hu. Dans ce cas-là, ça veut dire que j'étudie pas pour Akadosh Baruch Hu, dans ce cas-là, ça s'appelle Shelo Lishma.
Ouais, ça.
Bien d'accord.
Rosh Yeshiva et pour Akadosh Baruch
Hu. Parce que c'est pas une mitzvah d'être Rosh Yeshiva. Il n'y a pas de mitzvah de Rosh Yeshiva. Très bien. Ah. Si maintenant je vais étudier la Torah encore une fois. Mais il va très loin ici. D'accord. Attention, c'est resté clair en Shulchan Aruch, hein, il n'abandonne rien du tout. Que même Liot Talmit Racham, si j'étudie la Torah pour être érudit, J'étudie la Torah, pourquoi j'étudie la Gemara? Pour être érudit. C'est très fréquent ça. Pourquoi j'étudie pour être érudit? Pourquoi? Pour avoir des connaissances. Et tu dis, ça déjà, ça s'appelle Shelo Lishma. Ça s'appelle Shelo Lishma. Bien entendu, dès que je fais teshuva, ça va remonter, y a pas de problème. Mais ça s'appelle Shelo Lishma, je l'ai pas fait pour Dieu. Faire pour Dieu, ça veut dire, je le fais pas ni pour devenir Rosh Yeshiva, ni pour devenir Talmid Chacham, je le fais pour Dieu. Alors vous avez donné une nuance tout à l'heure. Vous avez dit quelqu'un qui veut devenir Rosh Yeshiva pour faire du Kirouv. C'est déjà une nuance, ça. Pas la même chose.
Où est-ce qu'on s'arrête?
En général, c'est pas le cas. En général, quelqu'un qui veut devenir Rosh Yeshiva, c'est parce qu'il voit que son rav, c'est un Rosh Yeshiva, il dit, j'ai envie d'être comme lui. C'est normal. Pourquoi pas? C'est Shelo Lishma. Et j'ai envie de venir Rabbi Akiva Eger. Pourquoi pas? Avec plaisir. Ça s'appelle Shelo Lishma. Je dis, commence comme ça, c'est pas grave. Mitor Shelo Lishma Balishma. Comme elle explique Maïmonide, il dit que quand un enfant il commence, qu'est-ce qu'on fait quand un enfant il commence? On commence, on lui dit, tiens, tu vas étudier, tu vas gagner un bonbon. C'est Shelo Lishma. Maïmonide dit qu'on est tous des enfants. Et que pour s'éduquer à étudier la Torah, il faut toujours nous encourager. Mais au but, à la fin du compte, il faut toujours arriver à une situation que on va étudier Lishma, on va étudier pour Akadosh Baruch Hu. T'es bien d'accord? De toute façon, ça se voit, ça. Quand quelqu'un étudie pour soi, quand quelqu'un... Enfin, je pense que, au bout d'un certain temps, ça se voit. Juste par rapport à ce qu'on a expliqué tout à l'heure, quand on fait une mitzvah, quand on fait une avéra, on crée une réalité autour de nous. Je voudrais juste ramener un point que le Rav Mergui avait dit, Motzei Shabbat. Il avait dit que, le rabbi précédent avait dit que, on ne peut pas juger l'âge d'une personne par rapport à son passeport. Ça, le rabbi précédent il dit deux jours. Le rabbi précédent, il avait l'habitude de dire, on ne peut pas juger, quand une personne arrive au Gan Eden, on ne juge pas son âge par rapport à l'âge qui est écrit sur son passeport. Ça veut dire quoi? Avirayat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir des fois une histoire, on raconte une histoire, il y avait une fois deux personnes qui sont montées au ciel. Une personne qui avait 18 ans, une personne qui avait 18 ans, et un vieillard. Et les deux, ils sont montés au ciel. Celui qui est arrivé, qui avait 18 ans, dès qu'il est arrivé, on l'a dit, ah, il a 18 ans. Le vieillard, quand il est arrivé, quel âge on a dit
deux ans.
C'est une vraie histoire qui s'est passée, que le rabbi précédent raconte. Il raconte une histoire qui s'est passée en haut. Je sais pas si c'est une métaphore, en tout cas, bon, c'est pour expliquer.
Comment il sait?
Il dit, il avait deux ans.
Enfin,
c'est une réalité.
Ah, donc il sait,
c'est une réalité.
Connu tunnel, il faut nous dire.
Non, c'est une réalité, là, encore une fois, parce que comme j'ai expliqué la semaine dernière, le concept des quatre mondes, c'est ici, c'est pas en haut. Donc ça veut dire un tzadik, il voit ce qui se passe. Il voit cette réalité. Bon.
L'argent du
pourquoi
tunnel.
Tunnel. Pourquoi il avait que deux ans? Parce que qu'est-ce qu'il avait expliqué?
Il a dit que, en fait, on comptait le temps qu'il avait fait à faire des mitzvot.
Le temps qu'il avait fait à faire des mitzvot et à faire des choses positives. Et on a cherché, on a gratté, on a trouvé deux ans. Alors que l'autre, 18 ans. Il est niftar à 18 ans, il a bossé. Avec ça, le rabbi précédent a expliqué qu'on ne juge pas l'âge d'une personne par rapport à son passeport. C'est exactement ce qu'on dit ici. C'est des réalités concrètes. Tu arrives en haut, on dit, maintenant écoute-toi bien, on ne connaît pas ton âge, on ne connaît rien de tout ça, nous on va voir ce que tu as fait. Quel âge? Quel âge tu as maintenant?
Combien tu pèses?
Combien tu vaux?
Américain, combien d'accord. Tu pèses?
Et là, on n'arnaque personne. Là, on n'arnaque personne, parce que c'est une réalité.
C'est tout, combien tu pèses?
Non, quand on a étudié chez l'Olishma, quand j'étudie vraiment chez l'Olishma, quand je dis plus on devient religieux, plus on a le piège, par exemple, j'étudie l'Iyot Talmid Chacham. Je dis pour devenir un Talmid Chacham, pour avoir des connaissances. Voilà, je dis à la maison. Pourquoi j'étudie? Parce que j'ai envie d'avoir des connaissances. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et Naol Eklal est malin. Le malach a été créé, le Sefer Torah a été créé, pour reprendre l'exemple tout à l'heure. Mais la Torah ne peut pas monter en haut. A filou, les chalot ou mador à malachim d'Egdusha. Ça ne peut pas monter, même au echalot et mador à malachim d'Egdusha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, là, le malach, il est complètement défectueux. C'est pas avant, qu'est-ce qu'on a dit? Avant, le malach, il était bon dans le fond. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? Il était bon dans le fond, mais dans la forme, il avait un problème. Là, il te dit, les deux, il a pas ni le fond, ni la forme. Ce malheur, c'est un malheur qui est défectueux. Bien sûr qu'avec les teshuva, on récupère.
Non, mais qu'est-ce qu'il a?
Non.
S'il a ni fond ni forme.
Non.
Qu'est-ce qu'il lui reste?
Il a une fond.
Je crois qu'il y avait que deux paramètres.
Il a un fond et une forme défectueux. C'est pour ça. Quand on fait teshuva, on dit continue. Même si c'est sur le chemin, continue. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que t'inquiète pas, on finira par récupérer. Toi ou un autre Gilgul, vous finirez par récupérer. Continue, c'est pas grave. Continue comme ça. Mais, c'est quand même défectueux. Tant qu'il n'y a pas teshuva, ça reste défectueux. Et la niche Eret le matin. Ça reste en bas. D'où l'histoire du Baal Shem Tov.
À part les grands, il y en a beaucoup qui font des mitzvot qui créent des malachim non défectueux.
Les gens simples. Ah, moi, quand je vois quelqu'un de simple venir prier à la synagogue, encore venir
il
faire...
Il Kavana.
Non, c'est ça, encore une
donc,
fois.
Il lui manque.
Kavana instinctive, il a.
D'accord. Donc on
peut-être qu'un Kavana analyse... Ben, il a un ange qui monte. Il peut monter au premier étage, peut-être. Enfin, au deuxième. Mais il est monté. Moi, quand je fais ma prière, d'accord, moi, quand je fais ma prière, je la fais chez le Lishma, je la fais comme ça parce que j'ai l'habitude de faire, ben, moi, ma prière reste en bas. C'est ça quand le Baal Shem Tov, il est... Non, je te promets. C'est ça quand le Baal Shem Tov, il n'arrêtait pas de répéter sans cesse ses élèves, il leur disait que la tefila d'un juif saint peut dépasser votre tefila de loin. Peut-être oui, peut-être non. D'accord ? Mais elle peut, et dans la majorité des cas, elle dépasse. Pourquoi ? Parce que moi, quand je le fais, c'est ou par intérêt, ou stam. D'accord ? Dans ce cas-là, elle reste en bas.
Ça tient pas la route, là.
Elle reste en bas.
Ça tient pas la route, là. Mais non. Si je me dis que le fait d'être religieux entraîne le fait que la prière va pas monter, à ce moment-là, il y a qu'elle peut rien faire.
C'est pas dit. J'ai dit simple.
Non. Il dit que le religieux, du fait qu'il faisait sans kavana parce qu'il était habitué, etc.
J'ai pas dit religieux.
Non.
Jacob, j'ai pas dit religieux. J'ai dit simple. Il y a des gens, tu vois.
Excuse-moi, Jacob.
Non, attends. Il y a des gens. Vas-y, Jacob. Il y a des gens, tu vois. Il y a des gens, tu vois. Des fois, des gens que tu vois venir à la synagogue, c'est des gens, ils t'ont l'air bêtes. D'accord. Les gens, je te promets, tu les vois en train de prier, mais tu parles avec eux, ils ne tiennent pas une conversation. Le gars, il tient pas la route. Tu dis, ouais, dans sa prière, je sais pas à quoi il a dû penser dans sa prière. Et ben, tu seras étonné, cette personne-là, quand il fait Tehillim, mais tu vas pleurer, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il pleure, celui-là ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Il comprend rien à ce qu'il lit. C'est vrai, c'est pour ça que, toujours à l'époque du Baal Shem Tov, les gens, ils se moquaient de ces juifs simples. Il y avait des juifs simples qui venaient à la synagogue, ils prenaient le livre de Tehillim, ils l'ouvrent, ils pleurent. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il pleure ? Tu comprends rien. Tu comprends même pas la traduction. Bien sûr qu'il y en a des comme ça, il y en a plein des comme ça. Des gens qui viennent, qui te font un Tehillim, d'accord ? Combien de femmes tu as par exemple qui te font un Tehillim, ils pichent que dalle au Tehillim. Toi tu le vois en train de dire, mais tu comprends même pas ce que tu lis.
Fonctionner comme ça.
Qu'est-ce qu'on te dit ? Bien sûr qu'il faut pas fonctionner comme ça. Mais le Baal Shem Tov il leur disait que.
On vient plus au cours, on fait plus rien. Comme ça on va être simple. Quand tu viendras faire la tefila, on comprendra rien. Et à ce moment-là, ça va monter. On demande de faire un truc. Le fait de faire la chose, ça entraîne le fait que tu ne fais pas la tefila, tu t'es bloqué. Et tu me dis, ouais, il vaut mieux être débloqué. Bah, viens, on va jouer au football. Et une fois par an, on va venir à Kippour.
Encore une fois, t'es à côté. T'es à côté de ce que j'ai dit, excuse-moi.
Non.
Tu pars à côté de ce que j'ai dit.
Tu es d'accord ?
Non, je suis pas d'accord avec toi.
Tu pars à côté
de ce que j'ai dit.
Yaakov, tu pars complètement à côté de ce que j'ai dit. J'ai pas du tout parlé d'un juif pas religieux, d'un juif qui est en train de jouer au football toute l'année. Non. Je parle du fait que, ce que le Baal Shem Tov, il répétait souvent, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il s'attrapait les foudres de beaucoup de rabbanim, parce que le Baal Shem Tov il disait explicitement, il disait que un juif simple, la tefila d'un juif simple peut dépasser la tefila d'un des plus grands rabbanim. Pourquoi ? Il expliquait, voilà, il dit pourquoi ? Parce que le juif simple, on retrouve une sincérité chez un juif simple, je parle pas d'un juif qui joue au football toute l'année, qui vient que pour ne créer pas des stéréotypes.
C'est clair que si le juif qui pratique, il va mettre sa cavana vraiment et qu'il ne fera pas par intérêt, ça ira au troisième étage, au deuxième étage.
Non, c'est pas ça qui est en
train de dire. C'est une mitzvah, maintenant, bien entendu, Yaakov.
Globalement, le mec qui est religieux, ça monte pas.
J'ai compris ce qu'il veut dire. Maintenant, Yaakov, n'oublie pas que c'est une mitzvah de la Torah qu'on a la mitzvah de comprendre ce qu'on fait.
Alors non. Moi, je veux que ma prière monte, je veux pas comprendre ce que je fais.
Moi, c'est une mitzvah de la Torah. Seulement quoi, comme je t'ai expliqué. Ça, je te donne l'exemple des gens simples. T'as des gens simples. D'accord ? T'as des gens simples. Tu prends par exemple les vieilles grand-mères, tu vois. Je te promets, tu les vois, ils te tiennent pas une conversation, ils comprennent pas ce qu'ils lisent. Ils ont lu des télé, ils comprennent pas.
Oui. Mais souvent, c'est les fainéants qui veulent pas se fatiguer. C'est la vérité.
Dans ce cas-là, c'est autre chose, d'accord.
Souvent, c'est la fainéantise.
Il ne dit pas forcément
j'ai compris ce qu'il veut dire.
De la meilleure façon, parce qu'il ne veut pas se casser la tête, mais tout le monde a compris que finalement, c'est un piège auquel...
Finalement, c'est plus simple d'être bête.
Non, c'est un piège réel, que tout le monde mesure parfaitement, auquel on peut se demander finalement, qu'est-ce qui est de plus embêtant ? Est-ce que c'est d'être plutôt ignorant et avec des prières qui s'envolent, ou un peu plus érudit, à peine, mais suffisamment pour rester collé au sol.
Voilà, moi je sais que...
C'est
bonne question.
C'est-à-dire, c'est ça ce qu'il demande. Bien sûr que c'est le mieux, c'est d'être érudit et de...
Oui, bien sûr. J'ai bien compris sa question.
Ah, bien sûr. Ça fait...
Moi je me rappelle quand j'ai passé le permis. Quand j'ai passé le permis.
On t'a pas
filé. Celui qui l'a fait... Non, on me l'a filé, va au prochain.
Tu l'as payé.
J'ai pas passé le code du premier, la première fois. J'ai passé le code la deuxième fois. Bon, on va au prochain. La deuxième fois, c'était zéro faute. La première fois, j'ai fait plus que zéro faute.
Parce que tu as fait des abekis ou tu as fait Youn, tu as fait des
rapports. Qu'est-ce qui m'a expliqué le gars de l'auto-école? Monsieur Cohen, qui est ici. Il m'a dit que de manière générale, les gens qui font la yeshiva, donc ils ont développé leur cerveau, ils ont plus de mal avec le permis que les gens qui sont bêtes. Le français bête, il vient, on lui dit traverser, pas traverser, je passe pas. Eux, ils le passent du premier coup. Pourquoi ? Parce que, cherche pas les pièges. Eux, tu leur amènes une réalité, ils disent, c'est très bien, mais c'est comme ça, moi je pose pas de questions. C'est la même chose ici. Tu comprends ? C'est la même chose ici. Moi, je te dis maintenant que quand tu fais une mitzvah, quand tu fais une mitzvah dans ce monde ici-bas, et quand j'étudie la Torah, d'un autre côté, toi, tu vas créer des anges que cette grand-mère qui va faire les télims ne va pas créer. Tu vas créer beaucoup plus d'anges. Tu comprends? Toi, tu vas créer un nombre d'anges que cette grand-mère n'aurait jamais créé. Suivez bien moi ce que je veux dire. C'est-à-dire, toi, ta qualité, c'est qu'en nombre d'anges que tu vas créer, la réalité que tu vas créer dans le monde, tu vas créer beaucoup plus de réalité. Mais ça ne change pas pour autant que tes anges ils vont rester bloqués en bas. Un jour, ils finiront par monter. Mais tant que tu n'as pas fait l'Ishma, tes anges resteront bloqués en bas.
Je suis pas sûr qu'ils vont.
Si, on a dit, la fin de la semaine dernière. Il dit que avec l'Oïdar, Menouïdar, c'est sûr qu'un jour, ces anges la monteront. Dieu a assuré, bon. Garanti que c'est. Ouais. Tu comprends? D'un autre côté, ceux qui ont, la grand-mère qui est en train de lire des Tehillim, peut-être qu'elle va créer 100 malachim dans sa vie, c'est possible. Mais ces 100 malachim, ils sont montés. C'est pour ça qu'on voit comment la tefila des gens simples, comment il dit, allié tefila t'idiot kala benecha. D'accord? On dit qu'il faut jamais la prière d'un idiot. Idiot, c'est, j'aurais traduit par un idiot, d'accord? Il faut jamais qu'elle soit légère à tes yeux. Ne crois jamais qu'il faut jamais qu'elle te paraisse légère à tes yeux. Pourquoi? Exactement, ce que je viens d'expliquer. Parce qu'on ne peut pas mesurer l'impact d'une tefila par rapport à la compréhension qu'on a. Des fois, la tefila, ça se mesure par la sincérité. Et la sincérité, on la retrouve de manière plus forte chez les gens qui sont simples, c'est clair. Donc, avec ça, le Baal Shem Tov, il expliquait longuement, il disait que, il disait aux gens simples, allez aux synagogues, faites Tehillim, mais n'écoutez pas les gens qui sont là pour vous casser. Il y avait des gens qui venaient pour les casser, votre Tehillim, que ça vaut là. Surtout à l'époque, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait des synagogues de Talmidei Chachamim, mais il y avait des synagogues de paysans. C'est comme ça à l'époque. Imaginez-vous la synagogue de paysans. J'imagine la situation, le Talmid Chacham qui passe à côté de la synagogue des paysans, presque il a envie de cracher. Mais vraiment, c'est pas méchamment. Parce que ils sentent comment ils sont à côté de la plaque. Ils sentent comment ils sont à côté de la plaque. Ils sont complètement que dit, mais ces gens ils comprennent rien, ils savent même pas ce qu'ils lisent. Et vraiment, ils le sentent. Non mais ça, c'est pas des blagues. C'est, à la limite, c'est sincère, le Talmid Chacham, il est sincère. Mais regarde les pauvres, ils pichent que dalle, ils comprennent rien ce qu'ils disent. Qu'est-ce qu'on lui dit? Pachanta vient lui dire, il aurait dit tu fais une erreur. Lui, il est sincère, et cette fille-là, elle peut monter plus haut que toi. C'est vrai que toi, tu crées plus de malachim, mais d'un autre côté, cette fille-là, elle peut monter plus haut.
Alors, conclusion?
Bah, conclusion, chacun a son rôle dans le monde.
Donc le Pachanta, il le laisse ignorant pour qu'il s'invite rien et monte. Qu'est-ce qu'il fait Pachanta avec le...
J'ai pas dit qu'il faut rester ignorant. Le Baal Shem Tov est dans une génération dans laquelle il y a des gens qui sont ignorants.
Non, on parle de maintenant. Le Tania, il écrit pour tous les temps. C'était différent
oui,
avant.
Oui,
les riches, les pauvres.
Alors,
les situations à l'époque étaient.
Même Yaakov, regarde.
C'est différent de maintenant.
Mais Yaakov. Tu sais, on peut pas venir. Moi, je vois. Oui, c'est sûr, c'est une révolution.
Nous, on a grandi comme ça, on voit pas ou presque pas. Il y a eu quelques places réservées dans les synagogues, tout le reste c'est Rofchi. Avant c'était pas comme ça.
Pas
hein.
Comme ça, pas du tout.
Les types où tournaient, on était, les usuriers ils étaient là, les machins ils étaient là, les boucherons, les machins, et les grands rachamim étaient devant.
Le tiers d'état.
Ah maman, c'était comme ça. Là aujourd'hui on croit que c'est normal, mais c'est le Baal Shem Tov qui a fait cette révolution. C'est un très grand mérite, hein,
quand on
imagine.
Comment? Il a fait enlever les plaques.
Ouais, exactement.
Non, il y avait des catégories dans les choules, tu vois, première rangée, deuxième rangée,
et
tu vois.
Le Mizrah,
il y avait les VIP, il y avait les...
Le Mizrah, c'était les VIP. Et à l'entrée, près du Bolt, c'était les Marouches. Incroyable.
Même aujourd'hui, on voit ça. Tu vois, Yaakov, toi, c'est quelqu'un, par exemple, Yaakov, t'as une petite dédicace dans l'enregistrement, là. Toi, Yaakov, par exemple, c'est quelqu'un qui te recherche. Comme je suis quelqu'un qui te recherche, quand tu vois une autre personne que tu as l'impression qu'il ne se recherche pas, et qui vient à la synagogue, bêtement. T'as envie de te moquer de lui, t'as envie de dire oui lui c'est un imbécile. Moi je me travaille, lui il se travaille pas, c'est un imbécile. Qu'est-ce qu'on est en train de t'expliquer? On est en train de t'expliquer que celui qui vient sincèrement, qu'il n'est pas conçu comme toi. Toi t'es quelqu'un qui analyse tout. Lui il analyse pas. D'accord? Lui il analyse pas. Lui t'as des gens qui viennent à la synagogue, ils viennent depuis qu'ils sont petits, ils analysent rien, ils viennent par routine.
D'accord.
Tu les vois, ils prient, etc. Tu sais même pas s'ils comprennent un mot à la tefila qu'ils disent.
D'accord.
Et ben on te dit sache que la tefila de cette personne-là, avec sa sincérité, elle peut monter plus haut que ta tefila. Alte tefila tadiot kalabenecha. C'est ça ce qu'on est en train de te dire. Il n'est pas comme toi, il n'est pas conçu comme toi. Toi, t'es quelqu'un qui réfléchit, qui compare tout. Donc, toi, quand tu vois quelqu'un qui réfléchit pas, tu dis, c'est un imbécile. Il vaut rien. Viens le Baal Shem Tov, dis-lui, tu te trompes.
Je dis pas que c'est un imbécile parce qu'il peut être très intelligent, justement.
Oui, bon.
Parce que, justement, il fait le calcul que je fais rien.
Il va nous parler encore là-dessus, de celui qui joue au foot
non,
toute l'année.
Non. Il est en train de se dire, attends, moi, j'ai été voir un cours d'un Lubavitch. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, les gens simples, la tefila, elle monte encore plus vite que les gens qui étudient. Le mec qui étudie, il se fatigue. Moi, je vais kiffer. Je vais kiffer, je vais rien faire.
Il est plus sincère dans ce cas-là. Mais il y a quand
même. Bon, les gens, ils font des calculs, mais parle avec eux.
Mais dans ce cas-là, il est plus sincère.
Ça ne m'intéresse pas, tes histoires.
Mais dans ce cas-là, il est plus sincère.
Ça ne m'intéresse pas. Tu sais pourquoi? Parce que je vais t'expliquer.
Dans ce cas-là, il est pas dans cette catégorie. Mais Yaakov, dans ce cas-là, il est pas sincère. Là, je parle de la sincérité. Des gens qui sont sincères. Des gens qui font ce qu'ils peuvent, mais qui sont pas. Parce qu'il est pas intelligent.
On parle pas de ça.
Moi, je parle de ça.
Celui qui peut pas, il peut pas. Ça n'a rien à voir. On parle pas de ça.
Qui gagne Yot, Salmit Raham Kakavna. Et Naolekla. C'est un piège.
Si parlons d'un cas, il y en avait certaines, il n'y a pas très longtemps aujourd'hui, l'intelligence s'est développée. Avant, l'intelligence n'était pas développée. Il y avait des gens qui étaient capables, d'autres qui ne savaient rien faire. Ils ne pouvaient pas apprendre à lire ni à écrire, les gens. Donc pour leur taper dessus, ils ne comprenaient pas. Hein.
Ouais.
Donc imaginons à cette époque-là, des gens tout juste qui avaient prié peut-être à peine. Donc ils ne pouvaient pas aller plus haut.
Oui.
On pouvait les considérer comme des types chim, parce que vraiment, ils étaient types pêche. Je dis pas attention quand même.
Oui, je crois pas de cela.
Mais aujourd'hui, on est un peu dans un grand environnement par rapport à l'époque, un environnement différent comme tout le monde peut.
Ça dépend. Moi, quand je vois ça, je m'imagine les gens de l'ancienne génération.
Oui, mais parce qu'encore une fois, l'ancienne génération ne se posait pas de questions.
Bien sûr.
Le rabbin il disait tu fais, et on faisait, et personne discutait.
Bien sûr.
Ah non, la timout a été développée. Mais maintenant, c'est fini, ça n'existe plus. Les gens qui, enfin, quand je disais que je plus.
Ça existe encore. Je vais vous dire chez qui ça existe.
Oui, mais de moins en moins.
On retrouve cette différence, par exemple, entre les hommes et les femmes. On dit que, quand on dit que, pourquoi la tefila d'une femme, elle peut monter plus haut? Parce qu'on dit que la femme, même si elle se recherche pas comme l'homme, elle va pas se rechercher comme l'homme et chercher les détails et la compréhension. C'est-à-dire, elle va faire un tehilim, elle va rien comprendre à son tehilim. Elle va faire une tefila, c'est possible qu'elle va rien comprendre à sa tefila. Mais d'un autre côté, la sincérité qu'elle va avoir dans sa tefila, va faire que cette tefila va être entendue plus vite chez Akadosh Baruch Hu. On peut retrouver juste cet exemple avec nos propres femmes. On voit qu'une femme se recherche beaucoup moins qu'un homme. Elle va pas se mettre à comprendre la tefila. D'accord? Oui?
Hana.
Oui. On n'avait pas le niveau d'un grand rave, mais sa prière a été entendue par Dieu parce qu'il a dit...
Ça, on voit plusieurs fois dans l'histoire que les femmes ont été entendues en premier. Moi, à mon avis, c'est encore d'actualité. Peut-être pas comme avant. Pas comme avant. Avant, c'était vraiment... Le contraste était très fort avant.
Ouais, maintenant, il y avait vrai contraste. Maintenant, c'est moins fort.
Oui. Mais on retrouve quand même. Il y a des gens qui sont, ils ont une sincérité. Ça veut dire, moins on connaît, et plus on a la sincérité.
C'est ça. Oui.
Aujourd'hui, l'absence d'intelligence, même relative, elle interpelle. Alors qu'avant... C'est la présence d'intelligence à l'interpeller.
Ouais.
On a changé de monde, hein.
Chez où m'adore un clipote. D'accord. Donc là, l'Admor Hazaken va amener des preuves. Il va amener des preuves dans la Hagar.
C'est pas facile.
Super rapidement. Il va amener des preuves à ce qu'il a dit, parce que c'est très dur ce qu'il vient de dire ici. Il vient de dire que quelqu'un qui a étudié la Torah par intérêt, cette fila, elle reste bloquée, sa Torah et ses épisodes restent bloqués en bas. Donc il va amener des preuves à ce qu'il a dit. Il amène dans la Hagar, ici, dans la note qu'on a, il amène trois preuves du Zohar. D'accord. Donc c'est uniquement des références, hein. C'est uniquement des références. Il dit que Moshe Katou Bezoach et la Gimel Daf Lamedalef Amoudbet, Daf Koufrafalev Amoudbet, Ayen Sham, Aymila Salka Uvak Ariki. On met une référence dans le Zohar, d'accord, qui dit comme ça. Il dit que Aymila, ce mot, le mot de Torah, de Tfila qu'on fait par exemple, Salka, elle monte, Uvak Arikin, elle fend les cieux, roulée, etc. Ve Itar Made Itar. Et avec ça, va se réveiller ce qui va se réveiller. Itav, Tav. Si c'était un bon mot, dans ce cas-là, tant mieux. Rouler, etc. Hein, quand on dit etc., vous avez compris la suite. C'est-à-dire que si c'est un mauvais mot, eh ben, en d'autres termes, la Nourazakat va amener ici le concept qu'on a dit ici, que la réalité, que quand on fait une mitzvah et quand on fait une avéra, on crée une réalité. Et que si c'était un bon mot, eh ben, tant mieux. Et si c'était un mauvais mot, eh ben, tant pis. D'accord. Encore un autre endroit. Vedav Koufé Amoud Aleph, Mila Doraita et Tavid Mine Kala Vesali, qui est un mot de Torah. De ça, ça devient un col, une voix. Vesali qui monte, d'accord. Vedav kufsamechet amudbet kalin doraita utslota vakin rekiin, d'accord. Que les mots de Torah et de Tfila fendent les cieux. Pourquoi il amène tout ça à la Nourazaken? Pour expliquer le concept qu'on a dit tout à l'heure, de le même concept que les Avdil, la voix, Lavoisier, qui disait rien ne se perd, tout se transforme. C'est-à-dire qu'un mot de Torah que je dis, moi je crois qu'il est sorti de ma bouche et que c'est fini maintenant. Ça y est, il est sorti de ma bouche. Bon, mais maintenant, ça y est, c'est fini. Il vaut plus rien ce mot-là. Le mot qui est sorti de ma bouche. Il souffle, il est parti. On te dit non. Ce mot-là, il s'est transformé, il a créé un malar. Un malar qui crée, qui est une réalité. Comment chez Katou Bezor? On reprend juste après la Haga. Comment chez Katou Bezor, la Nourazaken est conscient de la gravité de ce qu'il est en train de dire. Alors, en train de dire que quelqu'un qui a étudié par intérêt, celui-là, son étude reste bloquée en bas. C'est très dur ce qu'on entend. Comment chez Katou Bezor, comme le Zohar dit, al pasuk sur le verset qui dit dans Kohelet, Maïtron le Adam bechol amalo sheyamol tachat hashemesh. Il y a un verset qui est écrit dans Kohelet et qu'à cause de ce verset,
avec coulé de l'encre.
D'accord. Qu'est-ce qu'il dit ce verset? Le verset il dit comme ça. Le roi Salomon, il dit Maïtron.
Il reprend l'idée de
l'Adam
bechol
amalo sheyamol tachat hashemesh. D'accord. Big time. Il dit, Maïtron le Adam, quelle va être la supériorité d'un homme, Bechol Amalo, dans toute sa fatigue, chez Yamol Tachat Hashemesh, qui va se fatiguer Tachat Hashemesh, sous le soleil. Ça, c'est traduction. Ça veut dire, en d'autres termes, si on prend le sens simple de ce qui est écrit ici,
ça veut dire,
en d'autres termes, il dit, qu'est-ce que tu te prends la tête, à quoi ça sert, toutes les façons, tu fais que dalle ici, hein, ça sert à rien ce que tu fais. Qu'est-ce que dit l'Agmara dans le traité Shabbat? L'Agmara dit dans le traité Shabbat que quand les Chachamim ont vu cette phrase-là dans Kohelet, ils ont voulu cacher le livre de Kohelet. Enterrer le livre de Kohelet. Parce qu'ils ont dit que c'est dangereux, c'est des phrases dangereuses.
Il y en a plein dans Kohelet comme ça.
Oui, c'est explosif.
Mais c'est pas ça que ça veut dire.
C'est explosif. Attends, laisse-moi parler une seconde. Moi, je te dis ce qui est écrit dans le traité Shabbat. D'Aflamed Amoudben, si tu veux.
En plein cœur, hein. Il se parle en plein cœur.
C'est écrit comme ça. Krik Rachamim, quand ils ont lu cette phrase, une phrase explosive, ils ont voulu cacher le livre de Kohelet. Et là, à ce moment-là, il y a un Talmid Chacham qui est venu. Et qui a dit, non, je vais vous expliquer ce qu'il a voulu dire. Je m'emmerde. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a voulu dire, Maïtron l'Adam chol amal o shiyamol tachat hashemesh. C'est seulement quand c'est en dessous du soleil. Voilà. Mais si c'est sur le soleil, alors là, ça marche. C'est quoi le cas? Ça veut dire quoi? En dessous le soleil, sur le soleil. Ah, pour l'instant, on n'a pas compris. La Gemara juste dans Brachot, elle dit, Maïtron l'Adam shiyamol tachat hashemesh. Elle dit, on a voulu cacher le livre de Kohelet. Mais bon, après on a eu la réponse qu'en vérité le problème c'est que quand la fatigue est sous le soleil, mais si elle est sur le soleil, ça va. C'est quoi sous le soleil, sur le soleil? Alors le Zohar explique. Le Zohar il dit là-bas. Donc le Zohar il dit sur le pasouk, il dit Da filu amla d'oraita. Que même qu'est-ce que ça veut dire la Torah qui est sous le soleil? C'est quoi ça veut dire quoi une Torah qui est sous le soleil? Il dit Da filu amla d'oraita. Même la fatigue de la Torah. Comprenez, ça veut dire même une personne qui s'est fatiguée pour étudier la Torah. Il est en sueur, il dans un cours, il a l'impression qu'il est à fond dedans. Le mot du Zohar, Khelakalev Reshkav Gimel Amoudbed, voilà la référence. I avid beginiakre, si la personne fait ça beginiakre pour son honneur, quand Yekar c'est le kavod en araméen. S'il fait ça pour son kavod, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Rouler, etc. Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? C'est quoi le etc.? Le etc. ça veut dire c'est l'osalka lemala. L'osalka lemala, c'est-à-dire qu'elle peut pas monter en haut. Il y a aussi la phrase qu'on avait amenée la semaine dernière dans la Gemara Psachim. La Gemara Psachim, elle dit, elle ramène deux passages qui sont écrits dans Tehilim. Il y a un verset qui dit « Kigadol ad shamayim chasdera ». Il y a un verset dans Tehilim qui dit que « Ton chesed est grand ad shamayim jusqu'au ciel ». Il y a un autre verset qui dit « Kigadol me'al shamayim chasdera ». Que ton chesed est plus grand du ciel. Rava dans la Gemara Psachim toujours, il pose la question. Rava, mais ce qu'on a amené la semaine dernière, il pose la question et il dit « Je comprends pas, c'est au-dessus du ciel ou dans le ciel ?» Qu'est-ce qu'il répond? Il dit Kan boskim lishma, Kan boskim shelo lishma. Que quand on étudie la Torah lishma, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est me'al shamayim, ça monte sur le ciel. Alors que quand on étudie shelo lishma, pas pour Akadosh Baruch Hu, ça reste en bas. Et là, avec ça, il va expliquer la Gemara Zaken, quand on dit ici, ma'itron le adam bechol amalo shi'amol tachat hashemesh. Qu'est-ce que ça veut dire? On te dit, à quoi ça sert tout ce qu'un homme travaille en dessous le soleil? Ça veut dire quoi en dessous le soleil? Ça veut dire, on est en train de dire à une personne que c'est dommage. Avec toute la Torah et mitzvot que tu fais, si c'est des malachim, et si c'est une réalité qui va créer, mais qui va rester en bas, tachat hashemesh, qui va rester en bas, alors à quoi ça sert? C'est dommage. Maïtron, c'est beau ce que tu as fait, tu as créé un beau sefer Torah, mais on lit pas dedans. C'est très beau ce que tu as créé, mais le malach, il peut rien faire, il est bloqué en bas. Avant d'expliquer ça, encore une autre phrase. Les Zéushamrou, ça ce que les Chachamim ont dit, toujours dans la Gemara Psachim, dans le même endroit, la Flamed, c'est écrit « Ashremi sheba lekal v'talmud de Beyado ». C'est une histoire qu'on raconte qu'un des Chachamim, aussi une chanson, un des Chachamim était malade. Un des Chachamim était malade et il était proche de la mort. D'accord? Il était agonisant. Et quand il a guéri, son père lui a demandé, il lui a dit, Maï Chazit, qu'est-ce que tu as vu?
Qu'est-ce que t'as vu? Tunnel!
Qu'est-ce que t'as vu? Comme ça il a demandé, voilà, c'est Zavak Mara, c'est écrit. Maï Chazit, qu'est-ce que tu as vu? Et il lui a répondu, parmi les choses qu'il lui a répondu, c'est la Gemara Psachim, il lui a dit, Ashrimi Shebalekan Vetalmudo Beyado. Heureux, celui qui vient ici,
c'est-à-dire là-bas.
Là-bas, d'accord? Il était encore dans le coup, le train. Vetalmudo Beyado. Et sa Torah est dans sa main, son étude est dans sa main. Explique la Gemara Psachim, qu'est-ce que ça veut dire, heureux celui qui vient ici, sa Torah est dans sa main? Et qu'est-ce qu'il nous a appris? Bien sûr. Tu me dis, on n'arrête pas de nous dire que si tu vas étudier la Torah, tu vas faire les mitzvot, alors tu auras un salaire en haut. On sait très bien, on n'arrête pas de nous le dire. Qu'est-ce que ça veut dire? L'autre, il redescend, il dit, ah, heureux celui qui est monté en haut et qui a son étude dans sa main. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est même pas un scoop.
Il nous a rien appris. Explique la Gemara Zaken, c'est un scoop.
C'est un scoop.
C'est quoi le scoop? Le scoop est là. Shelo nishar le mata bolamaze. Qu'est-ce que ça veut dire heureux celui qui est venu avec son étude dans sa main? Ça veut dire heureux celui qui a pu le prendre avec lui. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit qu'on peut avoir quelqu'un qui monte en haut, et quand on essaye d'analyser, on dit, bon monsieur, qu'est-ce que vous avez?
En dessous j'ai plein.
C'est comme quelqu'un qui monte en haut. Si vous voulez écouter, j'ai mon compte en banque en bas. On lui dit, monsieur, ton compte en banque, il n'y a plus rien. C'est fini, compte en banque. Maintenant, ici, on veut du...
du réel.
Oui, on ne sait rien sans compte en banque. D'accord? Il dit, oui, mais c'est en bas. Il n'y a pas en bas. Ça vaut rien du tout en bas. C'est monté ou c'est pas monté? C'est pas monté. Il dit, bon, écoute, on va envoyer un guilgoule, on verra ce qu'il peut faire. Hein? Ça peut prendre des années comme ça.
Putain, le garantie.
La garantie, elle peut durer des années. Parce que hein, le guilgoule, ça peut aller jusqu'à ma chair.
Je crois qu'il dit comme ça que ceux qui sont en haut
ça
sont en bas.
Ça explique la Demorazaken.
Et les rabbanis, mais sont au même endroit.
Il dit, Ashrimi Sheba Lekan, Vetalmud Obeyado. Ça explique la Demorazaken. Quand il dit, qu'est-ce que ça veut dire quand il dit heureux celui qui est venu ici et que son étude est dans sa main? Parce qu'il dit, quand j'étais en haut, j'ai réalisé qu'on peut étudier énormément en bas, mais si on ne sait pas monter en haut, quand t'arrives en haut, t'as rien dans la main. Beyado. Dans sa main. D'accord.
Elle est belle.
Voilà.
S'arrête ici pour aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on conclut? Qu'est-ce qu'on conclut dans ce qu'on a expliqué ici?
Il a répondu.
Donc, on a expliqué, qu'est-ce qu'on a expliqué aujourd'hui dans le début du Pérec même. Dans le début du Pérec même, on a expliqué la différence entre celui qui a étudié la Torah Sam, c'est-à-dire par défaut. Que là, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On a dit qu'il va créer le fond et la forme, mais bon, le malheur, il va être effectué, mais il suffit de relancer un coup, de re-étudier, et ça monte. On a dit, le pire, c'est celui qui étudie par intérêt. Que là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va lui dire? C'est comme quelqu'un qui a étudié pour gagner de l'argent. Il a étudié, il a gagné de l'argent, il a gagné des millions, Baruch HaShem. Il a étudié, c'est devenu un grand professeur, d'accord, en Torah, grand professeur d'histoire juive, et il a rempli son compte en banque. Quand il arrive en haut, il dit, monsieur, qu'est-ce que vous avez? Il dit, j'ai rempli mon compte en banque. Il dit, monsieur, ça vaut rien ici. Il faut du réel ici.
Je sais pas s'il y a beaucoup de...
C'est quoi le réel? Le réel, le réel, c'est ce qu'on a fait l'Ishma. D'accord? On va continuer Bezrat HaShem la semaine prochaine. On va continuer Bezrat HaShem la semaine prochaine. En essayant d'expliquer, on va expliquer un peu mieux ce concept-là. Hein. Et ça par contre, Yaakov, oui, tu vois comment on commence à comprendre mieux la Kavana. Bon, à la fin du Super Ekmem, je ferai un résumé, mais avec les éléments qu'on a eu, on commence à... La semaine prochaine, Bezrat HaShem, on expliquera...
Il y a des conseils.
Oui, il y a des conseils.
Qui circulent.
Oui, j'entends.
J'entends, hein, mais c'est la réunion et tout.
La semaine prochaine, Bezrat HaShem, on expliquera un peu mieux, et ça, j'attendais que tu poses la question, Yaakov.
Ah,
on expliquera
un peu... Vas-y, c'est trop là, j'ai entendu, hein. Il t'attendait sur une vraie question.
On expliquera un peu mieux le concept. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on nous dit qu'il y a une Torah qui monte et une Torah qui monte pas? Nous, on a toujours appris que la Torah, c'est pas limité par l'espace.
La Torah est intemporelle.
D'accord. Donc qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis que certaines Torah montent, certaines Torah ne montent pas? Ça veut dire quoi? C'est un concept qu'on doit encore développer. On n'a pas assez développé ce concept-là.
Quand même, là.
Oui, mais on n'a pas d'expliqué. Ça veut dire quoi? Si la Torah est intemporelle, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une Torah qui monte, une Torah qui ne monte pas? Tout doit monter.
C'est un peu contradictoire.
C'est une vraie question. C'est une question très dure.
Ça provient de la Torah et pourtant ça génère quelque chose qui n'est pas torahique.
Et je sais même pas si on aura le temps. Non, on aura une réponse. Je sais même pas si on aura le temps de réexpliquer en un cours. Peut-être qu'il nous faudra même deux cours pour expliquer ce concept-là. Parce que la question est très compliquée.
Non.
Tout ça, Bezrat HaShem la semaine prochaine.